France Culture.
France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Surpris par la nuit. La rue est un roman par Isabelle Rossignol. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé, écrivait Charles Baudelaire dans un des plus célèbres poèmes des Fleurs du Mal. La rue est un roman, sous-titre Une revenante. Isabelle Rossignol nous entraîne sur les pas de Georges Perec, dont le texte sur la rue Villain à Belleville a donné lieu à un film de Robert Bobert en remontant la rue Villain, sorti en 1992. La rue Villain est une disparue, doublement, dans la mémoire de l'écrivain et dans celle de beaucoup qui assistent aux rénovations urbaines en cours. C'est une promenade dans les années 50. L'écrivain recherche un passé, celui de ses parents, dont il a été dépossédé. Les habitants s'interrogent sur le destin de la rue, sa démolition, qui entraîne avec elle la disparition d'un habitat populaire. Les comédiens du Théâtre du Chaudron lisent le texte de Georges Perec.
Surpris par la nuit. La rue est un roman, une émission d'Isabelle Rossignol réalisée par Anne Fleury. Ce soir, première partie. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une compagnie de théâtre, l'Atelier du Chaudron, qui est installée à Ménilmontant. Avec des comédiens amateurs du quartier, celle-ci venait d'organiser une lecture d'Espèce d'espace de Georges Perec. La lecture s'était faite dans les rues, pour inciter les habitants à mieux répondre à l'invitation de l'auteur, celle de regarder. Dans l'un de ses films, en remontant la rue Villain, Robert Bobert, ami de Perec, avait fait lire le même ouvrage.
Travaux pratiques. Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique. S'appliquer. Prendre son temps. Notez le lieu, l'heure, la date, le temps. Notez ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe? Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement. Presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt. Ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue. Essayez de décrire la rue.
Cette invitation, je l'ai prise en quelque sorte à mon compte. C'est-à-dire que j'ai relu le texte que Perec consacre à la rue de son enfance, celle-là même que Robert Bobert remonte dans son film, cette rue dans laquelle, durant 6 années presque consécutives, Perec s'est rendu pour scrupuleusement noter tous les changements qui s'y produisaient. Ce texte s'appelle modestement « La rue Villain ». Puis un soir, je suis allée la voir. Longtemps, j'ai arpenté ce qu'il en reste, 80 mètres de long sur 12 mètres de large. Partout, je cherchais un indice, même infime, qui m'aurait dit qu'un jour, ce petit morceau de bitume avait appartenu à une véritable rue. Mais j'ai cherché en vain.
Et la rue Villain, vous y allez souvent encore ?
Non, la rue Villain, j'y vais pas parce que je la trouve complètement froide. Je veux dire, ce petit tronçon qui ne correspond à rien, je sais pas. Alors, il faut s'y habituer ou pas. Moi, je m'y habitue pas. Je m'y attarde pas, en fait. Il y a quelque chose qui est brisé. Et le tronçon de la rue Villain, c'est un peu ça, quoi, pour moi. C'est, vraiment, ça a été tronçonné. Il y a de la vie tronçonnée dans ce tronçon, quoi. Et c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on se rend compte que une rue, quand même, ça a un sens, quoi.
Aujourd'hui, elle est assez facile à décrire, parce que c'est un moignon de rue qui part de la rue des Couronnes. Je pense qu'il n'y a même pas de numéro. Ça fait partie de ces très courtes rues parisiennes où il n'y a même pas de numéro. Et puis, ça doit faire, je sais pas, une cinquantaine de mètres. Ça recoupe la rue Julien Lacroix et ça vient ensuite buter sur le parc de Belleville et sur une des entrées du parc de Belleville.
Quand on m'a dit « rendez-vous rue Villain », alors je me suis dit « oui, la rue Villain, je la connais, mais elle n'existe plus ». Voilà, c'est ce que je me suis dit, elle n'existe plus. Parce que pour moi, ça, ce qui restait là, c'était pas une rue. Moi, je l'appelle le passage au Mûrier, mais c'est pas une rue.
Et pourquoi ils ont gardé ce petit bout, à votre avis ?
Moi, je pense deux choses. Il est fort possible que ça ait rapport à Pérec, tout simplement.
Mais il n'y a pas une plaque à rien, personne ne sait.
Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est que la rue Villain a été une séparation au XIXe siècle entre la commune de Belleville et la commune de Ménilmontant. Et en 1868, ils ont, juste avant, trois ans avant la commune, hein, parce que c'était des communes qui étaient très très rebelles, donc la ville de Paris les a rattachés à la ville et a séparé les deux communes libres de Ménilmontant et de Belleville. Et la rue Villain était la séparation des deux communes. Mais je pense que s'ils ont gardé la rue Villain, c'est pas pour ce souvenir-là, je pense que c'est pour Pérec. Et que la moindre des choses, c'est qu'ils auraient pu mettre une plaque, quoi.
Oui, ils auraient pu mettre une plaque. Mais puisqu'elle n'y est pas, puisqu'il ne reste que la perte et l'absence, j'ai eu l'idée de faire qu'un soir, la rue Villain soit encore à Pérec. Les comédiens de l'atelier du Chaudron se sont donc réunis, et autour d'un repas improvisé dans la rue même, ils ont lu le texte.
L'infraordinaire de Georges Pérec, des éditions du Seuil.
Avant et après la lecture, ceux et celles qui ont connu la rue sont venus dire ce qu'ils en savaient. Ce sont leurs souvenirs, leurs impressions, leurs réflexions personnelles ou historiques qui vont se succéder ici. Comme pour dire que certes, la rue Villain est une disparue, mais qu'elle peut être aussi une revenante.
La rue Villain. 1. Jeudi, 27 février 1969, vers 16h. La rue Villain commence à la hauteur du 29 de la rue des Couronnes, en face d'immeubles neufs, des HLM récentes qui ont déjà quelque chose de vieux.
Sur la droite, côté père, un immeuble à trois pans, une façade sur la rue Villain, une autre sur la rue des Couronnes. La troisième, étroite, décrivant le faible angle que font les deux rues entre elles. Au rez-de-chaussée, un café-restaurant à la devanture bleu ciel agrémenté de jaune.
Sur la gauche, côté impair, le numéro 1 a été ravalé récemment. C'était, m'a-t-on dit, l'immeuble où vivaient les parents de ma mère. Il n'y a pas de boîte aux lettres dans l'entrée minuscule. Au rez-de-chaussée, un magasin. Jadis ameublement, la trace des lettres meubles est encore visible. Qui se réinstalle peut-être en mercerie, à en juger par les articles que l'on voit en devanture. Le magasin est fermé et n'est pas éclairé.
Du numéro 2 parvient une musique de jazz, du revival, Sidney Bechet, ou plutôt Maxime Sory.
À partir du numéro 3, les immeubles cessent d'être ravalés.
Au 5, une teinturerie, au docteur du vêtement. Puis Bénard Confection.
En face, au 4, boutonniériste.
Au 7, enseigne de métal découpé. Pompe. Sur la façade, pompe coupée, échappuie. Le magasin a l'air fermé depuis longtemps.
Puis, toujours du côté impair, une petite boutique non identifiable.
Au 9, restaurant bar Marcel.
Au 6, plomberie sanitaire.
Au 6, coiffeur Soprani.
Au 9 et 11, deux boutiques fermées.
Au 11, Vilain Laverie. Une palissade de béton après le 11 fait le coin de la rue Julien-Lacroix.
Cette rue a été classée en 1863. Elle s'appelait rue Vilain, du nom d'un architecte, propriétaire des terrains du quartier et maire en 1848 de l'ancienne commune de Belleville.
La destruction a été longue, hein. Ça a été 7-8 ans. On a détruit par petits blocs de maisons. Ensuite, on a construit ces palissades en ciment qu'on retrouve sur un certain nombre de photos. C'était le moment où il y avait des squats sur Belleville. Et puis, il y a peut-être aussi sa configuration. Hein. C'est une rue qui est courte, fait 250 mètres. Elle fait un petit S pour grimper justement la colline de Belleville vers la rue Piat. Il y a cet escalier qui la termine, qui a été très photographié. Et puis il y a des lieux, presque mythiques au pied de l'escalier. Il y avait un café qui s'appelait Au repos de la montagne. Donc tout est un petit peu exagéré, mythifié, quoi. De la colline, ça devient la montagne.
La pente reste sensiblement la même, assez forte, sur toute la rue. La rue est pavée. La rue Julien-Lacroix la croise à peu près au milieu de sa première et plus longue portion.
Au croisement, côté père des deux rues, une maison en réfection avec un balcon de fer forgé au premier et la mention, deux fois répétée, attention, escalier.
Il n'y a pas trace d'escalier. On comprend un peu plus tard qu'il s'agit des escaliers qui terminent la rue. Pour une voiture, à partir de la rue Julien-Lacroix, la rue Vilain devient une impasse.
Au croisement, côté impair de la rue Vilain, côté pair de l'autre, un magasin d'alimentation dépositaire des vins Préfontaine, à en croire un panonceau sur la porte, et des vins du Postillon, d'après la toile Par Soleil.
Au 19, une longue maison, à un seul étage.
Au 16, un magasin fermé qui aurait pu être une boucherie.
Au 18, un hôtel meublé flanqué d'un café-bar. Hôtel de Constantine.
Au 22, un vieux café, fermé, sans lumière. On distingue une grande glace ovale au fond. Au-dessus, au deuxième étage, un long balcon de fer forgé, du linge qui sèche.
Et ça fait plus de 20... Ça fait 23 ans que j'habite ici. Et... La rue Vilain, c'était celle que je prenais, donc pour monter. Et c'est vrai qu'elle était tortueuse, hein, ça grimpait bien. Et j'aimais beaucoup les escaliers en haut. Il y a une photo de Doineau, je crois, qui représente bien. Moi, je les ai connus, ces escaliers-là.
Et puis, ils étaient où exactement?
Ils étaient à peu près là où il y a les escaliers du parc. À peu près, c'était par là, mais pas tout à fait, parce qu'ils les ont refait, hein, ils ont tout refait. Et moi, j'étais très fâchée quand ils ont construit le parc, parce qu'il y avait un petit parc abandonné, là, à gauche, là, et il était ouvert. C'est-à-dire qu'on pouvait y aller le jour, la nuit, il y avait un toboggan, je me souviens, pourtant j'avais quand même au moins plus de 30 ans. Et on prenait ce toboggan avec mes amis, on allait voir des amis qui habitaient rue Ramponneau. Alors on descendait la nuit, le jour, on prenait le toboggan avec les enfants. Hein. Et puis, cette rue-là, ça nous permettait quand même de couper très facilement pour aller à la rue des Couronnes. Tandis que maintenant, on est obligé de faire un grand tour et tout. Alors j'étais très très fâchée quand il y a eu le parc, très fâchée parce qu'il y avait ce côté liberté qui avait plus.
Alors tout cela étant dit, il s'agit de la rue Vilain.
Il s'agit de la rue Vilain, Édouard Février et la rue Vilain,
voilà,
c'est ça.
Édouard Février et la rue Vilain. Alors logiquement, moi je pourrais t'apporter des précisions sur la rue Vilain, puisque c'est la rue Vilain appartient à un trajet que j'ai effectué de façon continue durant les années 37-38. C'est un itinéraire qui m'a mené de la rue des Envierges, mon domicile, à la rue Saint-Maur, mon école. Ce qui bordait cette rue, c'était des pavillons, de petits pavillons avec des fenêtres sur les rez-de-chaussée. Rarement ouvertes, il y avait peu d'activité. Il y avait une chose, c'est que la pente était très rude. Et je crois qu'il y avait au départ un coude qui faisait qu'on l'avait fait simplement pour éviter la rudesse de la pente. Mmh. C'est ça qui... Mais il n'y avait pas, par exemple, de perron pour compenser le dénivellement. Mais de toute façon... En plus de ça, il y a encore une caractéristique. C'est que je me rappelle toujours avoir descendu la rue Villain et jamais l'avoir remontée. Or, je l'ai remontée. Donc, c'est une rue qui descend, tu vois. Et puis, en plus de cela...
Tu courais peut-être ?
Non, non, pour aller à l'école, je ne courais pas, je traînais. Je traînais la savate.
Moi, cette rue-là, j'ai un souvenir inoubliable puisque c'est là où j'ai rencontré mon mari qui habitait 20 ans dans cette rue. C'était un hôtel meublé, c'était comme trois chambres séparées, mais c'était sur un rez-de-chaussée et ils habitaient là, ils ont vécu 20 ans là-dedans.
Jusqu'à la destruction alors ?
À peu près, parce qu'ils sont partis, elle existait encore cette rue, hein, puisqu'ils ont été relogés par l'OPAC pour pouvoir détruire. Ils ont relogé tous les gens qui habitaient dans cette rue, ils ont relogé dans des HLM.
Où ça, vous savez ?
Ici, rue de Batoria, ils ont été logés ici, juste à deux pas. C'était une petite rue, j'ai le souvenir... une toute petite rue qui était très vivante, très... Ils se connaissaient, ils étaient tous comme des frères là-dedans. Ils se connaissaient tous entre eux. Et... Moi, j'ai que ce souvenir de cet immeuble du 16 rue Villain où habitait mon mari, que c'était un petit hôtel très pauvre, pas très propre d'ailleurs. Mais c'était très convivial, une rue très conviviale. Je rencontrais les gens qui étaient dehors le soir, qui se parlaient entre eux, qui rigolaient. C'était très vivant. Mais vraiment, il y avait de tout. Il y avait des Algériens, des Portugais, des Espagnols. Il y avait un peu de tout. Il y avait même une synagogue dans cette rue. Donc il y avait un mélange, mais... Tout en restant tous amis, une très bonne entente entre eux. Hein.
Au 16, un magasin fermé qui aurait pu être une boucherie. Au 18, un hôtel meublé flanqué d'un café-bar, hôtel de Constantine.
C'est la maison où je vécus.
Rien sur le numéro 20. Georges Perec, cette année-là, passe directement au 22. Au 22, un vieux café, fermé, sans lumière. Au 24, c'est la maison où je vécus. D'abord un bâtiment à un étage, avec au rez-de-chaussée, une porte condamnée.
Tout autour, encore des traces de peinture, et au-dessus,
pas encore tout à fait effacées, l'inscription
coiffure d'âme. Puis un bâtiment bas, avec une porte qui donne sur une longue cour pavée, avec quelques décrochements, escalier de deux ou trois marches. À droite, un long bâtiment à un étage, donnant jadis sur la rue par la porte condamnée du salon de coiffure. Avec un double perron de béton. C'est dans ce bâtiment-là que nous vivions. Le salon de coiffure était celui de ma mère. Au fond, un bâtiment informe. À gauche, des espèces de clapiers. Je ne suis pas rentrée. Un vieil homme venant du fond a descendu les trois marches qui menaient à notre logement. Un autre vieil homme est entré avec un lourd ballot de linge sur le dos. puis à la fin, une petite fille.
Non, mais alors, bon, vous habitez
j'habite là et c'est pas un hasard parce que je ne voulais pas quitter le quartier. Ouais. Moi, j'étais à l'école maternelle ici. J'ai eu toute mon enfance, la guerre, parce que je suis juive et j'ai vécu toutes les horreurs rue de Belleville et dans ce périmètre. Mais il se trouve par hasard que ma mère connaissait Madame Pérec mère et allait se faire faire des frisettes chez elle. Donc j'ai des souvenirs flous. Bon, là, il y avait des barricades et puis là, c'était un terrain vague. Et mon frère et moi, on se faisait engueuler parce qu'on usait nos culottes petits bateaux dans les années 40. Moi, je suis née en 35, alors vous voyez, c'est... Et j'ai toujours été très sensible à l'écriture de Monsieur Pérec fils.
Vous l'avez lu ?
Ah oui, j'ai tout Pérec.
Tout Pérec, bien sûr. Et alors, cette rue, donc, elle vous parle forcément, même si dans la
société. Il s'est trouvé que j'habitais pas là, et qu'en vieillissant, j'ai voulu des arbres. Enfin, bon. Et quand j'ai commencé avec le Minitel, il y a 10 ans, à chercher, que j'ai vu le mot rue Villain, pour moi, a été un révélateur magique. Quoi. J'ai dit, oh ben ça, je vais aller voir. Puis en plus, comme j'ai les balcons qui donnent dans le parc, c'est pas mal du tout. Mais effectivement, Pérec compte pour moi parce que c'était aussi un môme du quartier. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Mais vous l'avez connu aussi alors?
Non, je ne peux pas dire que je l'ai connu. Maman a connu sa mère et moi je connais sa littérature. Mais c'est surtout maman qui a connu Madame Pérec.
Et comment elle était? Ben, quel souvenir vous avez d'elle?
Non, mais c'était une femme très aimable, très commerçante, très généreuse. Très, très, très sympa dans le sens où elle était quand même commerçante. Mais ma mère disait toujours qu'elle parlait beaucoup avec elle.
Mon itinérance a commencé au moment où j'ai lu. Enfin, les textes de Pérec qu'il a écrits entre 68 et 75 quand il est arrivé dans le quartier. Quand j'ai vu le film de Bobert, moi je me suis tout de suite retrouvé là-dedans. C'est un type qui enquête de quelque chose, il y a une blessure. Et moi, ma blessure, elle n'était évidemment pas la même, mais je veux dire, il y a quelque chose qui y renvoie. Et quand j'ai compris un peu la douleur qu'il portait en lui, qu'on lui a arraché, pratiquement volé une partie de son enfance et de son adolescence, qu'on lui a arraché l'objet d'amour qu'est sa mère, et ainsi de suite, je me suis dit, mais... Je me suis identifié à ça parce que je pense que le salon de coiffure de sa mère, qui pourrait être moi la boutique où j'allais prendre mes bonbons quand j'étais petit, je sais pas, là-bas, c'est des choses très 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 importantes. C'est une substance, c'est une nourriture, quoi. Et on l'a dépossédé de ça, quoi. Et je me suis un peu identifié, effectivement, parce que je me sentais aussi un peu dépossédé. En plus, moi, c'est doublé par autre chose. Moi, je suis pas né ici, je suis né au Maroc. Et pour moi, habiter quelque part, ça a un sens. Et ce recueil systématique du moindre détail, que ce soit le détail écrit, je veux dire, l'observation, cette photographie un peu systématique, et tout ce travail de reconstitution qu'il a fait avec des photographes, des amis qui sont venus reconstituer à peu près la rue Villain, on peut comprendre que, au-delà de l'interpréter ça comme une espèce de simple obsession, il y a réellement une déchirure et lui, je veux dire, il travaille à cette manière pour la dépasser. Et ça m'a touché profondément, quoi. Ça m'a donné envie de m'ancrer encore beaucoup plus et donc d'être un peu plus attentif, de m'arrêter et regarder aussi. Enfin, je veux dire, je regardais vraiment.
Des traces de chambres à papier peint jaune et jauni sont visibles sur le flanc du 31.
Le 31 est une maison condamnée. Les fenêtres des deux premiers étages sont bouchées. Il y a encore des rideaux au troisième. Au rez-de-chaussée, un magasin condamné. Force, lumière, A Martin, bobinage, moteur, installation générale d'usine.
Au 33, un immeuble condamné.
La rue fait alors sur la droite un angle d'environ 30 degrés. Du côté père, la rue s'arrête au numéro 38. Il y a ensuite une cabane de briques rouges, puis l'arrivée d'un escalier venant du passage Julien Lacroix, qui part lui aussi, mais un peu plus bas que la rue Villain, de la rue des Couronnes, puis un grand terrain vague avec des caillasses et des herbes pelées.
Du côté impair,
La rue fait, à la hauteur du numéro 49 sur la gauche, un deuxième angle également d'environ 30 degrés. Ce qui donne à la rue l'allure générale d'un S très allongé, comme dans le sigle SS.
Cela donne à la rue l'allure générale d'un S très allongé, comme dans le sigle danger haute tension.
Du côté impair, la rue se termine à la hauteur des numéros 53-55 par un escalier, ou plutôt par trois escaliers esquissant eux aussi une double sinusoïté. Moins la forme d'un S que celle d'un point d'interrogation à l'envers.
Le 49 est une maison jaune avec un deuxième étage mansardé en zinc, deux fenêtres au premier. À l'une, celle de droite pour moi, une vieille dame qui me regarde.
C'est quand même un sacré un quartier d'émigration et qu'avant la guerre, il y avait surtout des Juifs d'Europe centrale qui fuyaient la Pologne pour les persécutions. Mes parents sont venus en France dans les années... 20... Papa est venu en 28, maman en 29 ou 30, vous voyez. Mon frère est né en 30, moi en 35 et on a toujours été... La France, c'était... Toi, cocorico, hein. Et puis bon, il y a eu Hitler, il y a eu les flics, il y a eu qui ont marqué toute la famille. Et puis moi, je suis très attachée à... Ici, je suis chez moi. Parce que chaque fois que je descends, il y a des images, il y a des souvenirs. C'est important pour... ne pas se démolir trop vite, quoi. On vit avec... on a beau dire qu'il ne faut pas vivre avec le passé, il est en vous, le passé. Hein, surtout bien quand sûr. On a passé des épreuves très lourdes. Parce que j'ai tout connu ici, hein, je peux vous dire. J'ai été à l'école rue du Général Lassalle avec l'étoile jaune quand même. Hein. Ça ne s'oublie pas quand tu as 6 ans et qu'on te traite de sale youpine. Et les gens qui m'ont insulté à l'époque, j'ai travaillé aussi dans le quartier, je dois vous dire. Parce que, comme toute bonne petite fille juive, j'ai repris le magasin de confection de mes parents. Ça
qui
m'a
se
fait chier.
Où
47 rue de Belleville. Ouais. Donc ça m'a fait chier toute ma vie. Mais néanmoins, j'ai assumé. J'étais la petite fille dont la petite fille juive, elle ne fait pas d'études. Mon frère est architecte, mais moi, j'aidais papa-maman. Parce que, de toute façon, ce n'était pas important puisque j'allais me marier, avoir des enfants. C'était le but des parents de l'époque.
Plus de ça, il y a deux anecdotes qui font que je la considère non pas comme Paps, la rue sans joie, mais la rue déserte, la rue vide. Parce que j'y ai pas reconnu d'activité. Il devait y en avoir. Hein. Il y avait des petites manufactures, il y avait des commerçants sûrement. Mais... La première, c'est qu'un matin d'hiver, j'y ai vu, peut-être une des premières fois de ma vie, un homme mort. Dans le virage, sur le trottoir, il y avait un type qui avait été descendu quelques heures avant, sûrement, et qui était allongé, c'était une matinée d'hiver, hein, enneigé, avec une neige un peu cristalline, tu sais, un peu sèche. Et le type était un peu recroquevillé, je crois qu'il y avait du sang. Je crois parce que, en fait, j'ai été intéressé par le côté un peu esthétique de... du fait, c'était la neige était blanche, l'homme était noir et il y avait un peu de rouge qui était sous lui, sous sa tête. Et ce qui est encore plus caractéristique, c'est que cet homme était seul et abandonné. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi je te dis que la rue était vide, parce qu'il n'y avait aucun signe, il n'y avait aucun attroupement autour de lui, mais il n'y avait même aucun signe d'alarme pour secourir ce type. Hein. Et ma mère qui m'accompagnait, il y avait ma mère et mon frère, je ne crois pas qu'elle ait ameuté en descendant la rue en disant « il y a un homme qui gît sur le trottoir sans vie hein. ». Non, on est passé indifféremment devant ce personnage. Je pense que c'était, à l'époque, c'était assez, disons, c'était assez fréquent, hein. C'était une époque où il y avait des souteneurs, où il y avait des bandits, des gens, des solides, des cadors, comme on appelait, des caïdes. C'est pas des cadors, c'est des caïdes. Donc, tu vois comment ça... Voilà, ça c'est le premier souvenir que j'en ai. Il y en a un autre. Mais voilà, je m'en rappelle plus. Attention, ça devient dangereux.
Terminé. Eh ben, pour un charpentier. Tiens, va donc chercher Marie, toi. Tu t'es bien débrouillé, dis donc. Si tu veux, je peux te prendre dans la bande. La place est libre. Merci, mais je peux sortir sans ma bonne. Ah, tu crois? Oh, remarque, nous, on sort à se taire. On peut y avoir des fuites. Je sais, oui. Tandis que si t'es avec nous, ben, personne n'osera te donner. Comme tu veux.
Au 34, un ancien vin et liqueur.
Partout des fenêtres aveugles. Au 53-55, il y avait un vin et charbon au repos de la montagne. L'immeuble s'est fendu en son milieu, de haut en bas, le 5-4-68. Ce sont les dates inscrites sur le plâtre test. On a muré les trois portes aux trois fenêtres du premier.
Moi, j'ai connu la période avant ces constructions, avant que ce soit élargi, très, voilà, comme ça. C'était une petite rue assez étroite, et de temps en temps, elle était coupée par des volées de marche. Donc, ça faisait un petit peu comme à Montmartre, mais en plus simple que Montmartre. Et alors, ce qui était étonnant, c'était le réverbère qui était sur l'un des paliers et qui était là, un petit peu isolé, et qui donnait un cachet assez curieux. En fait, on avait l'impression que c'était quelque chose qui avait été dessiné comme un tableau, enfin, où on aurait composé, quelqu'un aurait composé un paysage, et en même temps, c'était d'une très grande simplicité.
Il me semblait pourtant... Ah si! Voilà, tout d'un coup la lumière, et c'est la lumière. Je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu à Paris, en haut de la rue Villain, peut-être à peu près au même endroit que cet incident, enfin cet incident, ce crime que j'ai vu, j'ai assisté à l'allumage d'un réverbère à gaz. C'est la seule fois. Hein, en fin de soirée. Alors, il est fort probable que là, je remontais la rue Villain, mais je ne m'en rappelle plus. Moi, je te dis, elle descend toujours, alors je peux parler quand ça remonte. Et le type avait une perche, et je me rappelle l'effet que ça m'a produit, cette boîte qui s'est tout d'un coup allumée avec une petite flamme, et qui a diffusé de la lumière, c'était très poétique, un peu irréel.
À 7h du soir, je suis repassée, presque en courant, pour voir à quoi la rue Villain ressemblait la nuit tombée. Il y a très peu de fenêtres allumées, à peine deux par immeuble, dans la portion supérieure de la rue, mais davantage au début. Le vieux café du 22 était allumé, plein d'Algériens. C'est également un hôtel. J'ai vu un écriteau, prix des chambres. Plusieurs magasins que j'avais cru définitivement fermés sont éclairés. 2. Jeudi, 25 juin 1970, vers 16h. On installe le marché sur le boulevard de Belleville. Travaux de voirie qui se continuent rue des Couronnes. Immeuble en construction au coin de la rue Jean-Pierre Timbaud. Tout un pâté de maisons détruits au coin de la rue des Couronnes. Un peu plus loin, sur le boulevard, des cars de CRS. Incident récent entre juifs et arabes.
La rue Villain est en sens interdit. On ne peut la monter. Les voitures sont garées du côté impair.
Le 1 et le 3 sont ravalés. Au 1, il y a un magasin d'alimentation fermé et une mercerie encore ouverte. Au deuxième étage, un homme est à sa fenêtre.
Au 3, un magasin de couleurs et une bonneterie. La marchande du magasin de couleurs me prend pour un officiel. Alors, vous venez nous détruire ?
C'est l'histoire des îlots insalubres de la ville de Paris. Donc c'est une histoire assez ancienne qui remonte à la fin du 19e siècle avec un épisode qui s'appelle l'épisode du casier sanitaire, donc qui était une cartographie de certains quartiers de Paris où avait particulièrement sévi une épidémie de tuberculose. Et donc les élus, les techniciens de la ville, qui n'étaient pas encore des urbanistes à l'époque, ont commencé à se dire il faut éradiquer la maladie et donc l'inconfort, la vétusté de ces quartiers. Et jusque dans les années 30, ce concept d'insalubrité qui était assez lié à la maladie au départ, va s'étendre avec la naissance des urbanistes et de l'urbanisme moderne, surtout après la Première Guerre mondiale. Et la notion d'insalubrité, ça va être à la fois des petites cours, l'absence de lumière, des immeubles bas, etc. Et si on regarde la carte des îlots insalubres, ça recoupe largement aussi la carte du Paris populaire, des endroits les plus pauvres, et il y a une logique. Et aussi largement la carte de l'immigration. Donc les immigrations juives, arméniennes, puis ensuite arabes d'Afrique du Nord, se sont successivement implantées dans ces quartiers. Et ça, c'est l'histoire de Belleville. Et dans les années 50, il y a une pression donc sur l'urbanisme. Donc il y a de plus en plus de monde qui habite dans ces quartiers. Et comme en même temps, les propriétaires savaient que c'était classé îlot insalubre, pendant 50-60 ans, il ne s'est rien passé. On ne faisait aucun travaux et la situation empirait. Donc il y a un moment où c'est plus possible et où ça bascule. Alors, dans les années 50-60, on prend les 17 îlots et puis... systématiquement, on détruit et on reconstruit. Donc là, ça concerne les îlots 11 et 7, notamment pour Belleville. Donc avant la rue Villain elle-même et le petit quartier autour, il y a eu la place des Fêtes un peu plus haut, il y a eu la zone d'aménagement des Amandiers à côté du Père Lachaise, donc plutôt sur Ménilmontant. Et puis ensuite, viendra le tour de la rue Villain, puis de la rue Ramponneau. Donc ça, c'est la logique un petit peu implacable qui fait que...
Oui, mais alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est pourquoi la destruction et pourquoi pas une rénovation, quoi?
Ça, c'est la théorie et la pratique urbaine des années 50 et 60, ouais. Hein, donc... cet enchevêtrement de cours, d'impasses, de petits immeubles, aussi d'activités économiques, de petits ateliers et d'habitants, elle ne correspond pas aux règles et aux canons de l'urbanisme à partir des années 40-50. On rase, on va faire ce qu'on appelle de l'urbanisme de dalle, et puis on va construire soit des bars, soit des tours, et au milieu entre ces tours et ces bars, on met de l'espace, quelques jardins, des grandes dalles pour les gens, que les enfants puissent jouer. Donc c'est l'approche fonctionnelle de la ville, pour à la fois faire du moderne, avec des salles de bain, des pièces plus aérées, ce qui est vrai aussi, hein, et aussi donner de la place pour qu'on puisse garer les voitures en parking, prévoir éventuellement un petit centre commercial.
Mimoso, ça vient d'où ?
Portugal.
Et votre mari, donc, est portugais aussi.
C'est lui qui s'appelle Mimoso. Et nous sommes très heureux avec trois enfants, trois magnifiques enfants. Et nous habitons toujours le quartier rue des Couronnes. Ouais. On ne l'a pas quitté. Et je ne me vois pas partir d'ici tellement je me sens bien.
Et votre mari, quand il a vu la destruction, qu'est-ce que ça lui
Alors
a fait?
Alors ça, il faudrait lui demander à lui, mais je
On
sais
pas. On ne va pas le rencontrer,
Non, il travaille beaucoup. De nuit, il dort le jour, oui. Il travaille énormément, mais il a de très bons souvenirs de cette rue. Hein. Lui, quand il se met à me raconter des choses, il ne fait que... Il rigole beaucoup tout ce qui s'est passé. Il a des souvenirs, mais beaucoup avec des amis d'origine maghrébine. Qu'il avait des copains qu'aujourd'hui il ne se voit plus, hein, malheureusement, mais il a gardé de très très bons souvenirs.
Mais la destruction en elle-même, ça lui a rien fait?
Non, il était pas triste. Je ne sais même pas, j'ai pas de souvenirs, même moi-même je n'ai pas de souvenirs. Je sais que tout était caché autour, on voyait rien, hein, quand ils ont fait...
Ouais, mais le jour où on lui a dit qu'il fallait qu'il parte de cette
rue... Je ne lui ai pas demandé ce que ça lui a fait, mais je pense qu'il était content parce qu'il vivait déjà dans des conditions tellement pas bien du tout. Alors je pense qu'il était content même de partir après. Quand je rentrais là-dedans, c'était pas très, très, très propre. C'était pas...
Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des rats, il y avait des poubelles.
Ah, il y avait de tout, ma pauvre. Oui.
Est-ce qu'il y a eu des oppositions à cette destruction? Est-ce que les gens ont essayé de garder absolument leur commerce, leur hôtel? Est-ce qu'ils ont voulu rester dans cette rue?
À ma connaissance, non, parce que c'était une époque où il y avait quand même un consensus politique autour de ça, donc par rapport à ces thématiques de la salubrité, de reconstruire du neuf, du plus spacieux, du plus fonctionnel. Je crois qu'il y avait un accord de tous l'éventail politique. Dans des quartiers populaires où les partis principaux, c'était les communistes et les socialistes, comme il n'y a pas eu de désaccord un petit peu des leaders d'opinion, et que les associations étaient peut-être moins importantes à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y ait eu d'opposition. Bon, il y a eu de la tristesse, les gens ont peut-être râlé à titre individuel, mais je n'ai pas de mémoire, mais vous l'aurez peut-être ailleurs, auprès d'autres personnes, d'opposition organisée. C'est vrai que dans la thèse qui est défendue par certains, que la destruction et le relogement sur place dans des bars et des tours, ça a aussi été une façon de préserver une certaine diversité sociale et de l'habitat social dans ce type de quartier qui aurait peut-être complètement disparu si on avait eu que de la rénovation et une évolution des gens qui pouvaient se payer les logements rénovés.
Au 2, un café-restaurant. Au 4, un boutonniériste. Travaux de voirie, installation du gaz de lac.
Au 5, laiterie parisienne. Au docteur du vêtement, teinturerie réparation. Bénard confection.
On entend, venu de plus haut, de la musique arabe.
Au 6, plomberie sanitaire, coiffure A, soprani, nocturne le jeudi. Le magasin semble refait à neuf.
Au 7, pompe coupèze, fermée. Deux étages sur trois sont murés, un autre magasin fermé. Une petite annonce au crayon feutre, effacée sauf le rouge. Je vends mardi, mercredi.
Le 8 est une maison à trois étages, avec deux femmes aux fenêtres. Au 10, fermé. Parage de peau à façon est fermé également, une papeterie mercerie.
Il y avait, mais je ne suis pas sûr à quelle hauteur, en tout cas, il y avait une série de petits pavillons. Et ces pavillons étaient tout à fait extraordinaires parce que c'était comme une petite ville en pavillon, mais tout petit, en réduction. Et quand ils ont démoli, il s'est passé, il y a eu pendant quelques jours, une ou deux semaines, quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'était que un engin de chantier était passé avec une énorme boule, ces espèces d'engins très curieux qui sont des grues et qui ont une énorme boule de métal et qui lève cette boule et la laisse retomber sur les toits des immeubles à détruire. Et donc ils ont procédé comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont cassé tous les toits mais pas les murs. Les murs ont sans doute été, enfin j'ai pas assisté, ont sans doute été déblayés au bulldozer après. Et donc, on était sûr qu'effectivement, il n'y aurait pas de squatteurs, il n'y aurait pas... bon, je pense qu'ils avaient eu du mal à se débarrasser des habitants avant de faire la rénovation. Et justement, j'étais allé visiter lorsque les tours ont été détruits, et c'était un espèce de petit dédale de cours, de petites pièces minuscules où il y avait la place de mettre un lit et une petite fenêtre, parfois pas de fenêtre, une cour avec un arbre qui visiblement avait poussé bien avant que les constructions soient établies là, et des petites cours qui étaient grandes comme une chambre à peu près. Et c'était vraiment, c'était très très étrange avec ces constructions qui avaient perdu leur toit et qu'on pouvait visiter en passant un petit peu sur les gravats. On voyait le plan, ça faisait un petit peu, je sais pas, les villes antiques qu'on retrouve.
Pompéi.
Voilà, les ruines. Ah, Pompéi. Non, parce que Pompéi, c'est quand même, là il y a le volcan, il y a eu les cendres. Non, ça fait penser aux des villes, enfin je sais pas, Éphèse ou d'autres villes.
Au 13, une laverie à la façade d'un bleu délavé, un appartement est muré au second étage. Le 12 est un immeuble de 5 étages. Au rez-de-chaussée, célibataire, pantalon en tout genre. Au 14, une maison condamnée, et aussi au 15, croisement de la rue Julien Lacroix. Au 16, une ancienne boucherie. Au 17, un ancien magasin d'alimentation est devenu un bar-café. On a peint « bar-café » en blanc sur la porte. Au 18, hôtel de Constantine, hôtel meublé, café-bar. Le 19, le 21 et le 23 sont des maisons à un étage, délabrées.
Au 24, dans la courette, il y a un chat sur une soute à charbon. L'inscription « coiffure d'âme » est encore visible. Affiche du PC.
C'est vrai que ça faisait... Bon, on les voyait ces affiches, moi je les ai vues, il y avait c'était vraiment abandonné aussi, on voyait des déchets qui traînaient, bon, des graffitis. C'est mieux maintenant, hein. Maintenant je me suis habituée au parc, mais quand même, il y avait aussi le petit passage, le passage Villain. Il existait, il y avait des petites marches, hein, parce que quand on montait la rue Villain, donc on faisait le zigzag, là, et puis ici, là, sur le côté, il y avait des petites marches qui étaient le passage Villain, qui arrive à l'autre entrée du parc. Hein, ça donne sur la rue des Couronnes. Donc moi, j'ai connu comme ça. Et le soir, quand on y allait, c'était calme, tranquille. Il y avait des grillons qui grillonnaient encore là-haut. Là. Il n'y en a plus, hein, on ne les entend plus, les grillons. Moi, à mon époque, il y avait des grillons.
Après coup, j'habitais même la rue des Rigoles. Mais c'était pas un passage que je prenais déjà. Premièrement, j'ai été porteur de journaux. Tu sais, ça, c'est un truc qui se faisait à vélo. Donc tu évitais la rue Villain parce qu'il fallait prendre ton vélo sur l'épaule et dégager les escaliers. Alors je descendais la rue de Belleville, hein, c'est tout. Donc non, j'ai pas eu de... Là tu peux... J'ai beau chercher, je trouverai pas de correspondance avec... Pas de suite à la rue Villain.
Aussi, une des caractéristiques, c'est qu'il n'y aura pas de construction sur la rue Villain. Depuis longtemps, un espace vert a été prévu à cet endroit. On trouve ça dans les cartes de programmation urbaine des années 30 de la ville de Paris. Il était plus restreint, il était sur la pente qui descend là, du carrefour Pierre-en-Vierge vers la rue des Couronnes. Le jardin va devenir un parc plus grand, ça sera le parc de Belleville. Et la rue Villain, finalement, elle va disparaître dans un espace vert qui est le parc actuel.
On peut admirer les jeunes arbres que des jardiniers ont plantés et dont la direction des parcs, jardins et espaces verts de Paris a déterminé la liste. Des chênes, des hêtres, des tilleuls, des marronniers, des noyers, des tulipiers de Virginie, des arbres de Judée, des orangers du Mexique et des frênes d'Amérique, des savonniers et des pommiers, des catalpas, des sophoras, des arbres à encens et des cyprès chauves. De ginkgo, originaire de Chine, appelé aussi arbre aux 40 écus, et parce qu'autrefois à Ménilmontant il y poussait du raisin, on a aussi planté une vigne.
Au 25, un magasin fermé. Au 26, un rez-de-chaussée condamné. Au 27, un magasin fermé. Puis jusqu'au numéro 41, une palissade en ciment. Au 30, une maison de deux étages, partiellement murée, un magasin de mode. Au 32, des boutiques condamnées, vins et liqueurs. Le 34 est presque entièrement muré. Après le numéro 36, commence le terrain vague.
Mercredi 13 janvier 1971. Froid sec, soleil.
Au-dessus de la porte du numéro 1, il y a un fronton triangulaire. Le magasin de gauche, peint en bleu, avec une tente rouge déchirée pendante, est fermé. Le magasin de droite vend peut-être des fournitures pour tailleurs. Au numéro 3, un magasin de couleurs et au bon accueil, confection, bonneterie. Au numéro 2, café-restaurant. Au numéro 4, boutonniériste. Au numéro 5, laiterie parisienne et au docteur du vêtement, teinturerie, pressing, bénard, confection. Au 7, un immeuble démoli, avec une palissade sur laquelle la cause du peuple est affichée.
Et les autres ? Qui a connu la rue Villain ?
Oui, moi. Dans les années 65, quand j'étais une toute petite fille, et j'ai un souvenir assez vague, j'ai le souvenir de cette rue qui était complètement pentue, qui montait avec des petites maisons adossées les unes aux autres et des enseignes. Et la première fois que j'ai vu, je devais avoir moins de 10 ans, mon père travaillait avec un bar que j'ai retrouvé dans le texte.
Ah bon, lequel ?
Celui avec le fer forgé. Enfin, je ne savais pas qu'il était au 22, bien sûr, je ne lisais pas les numéros de rue. Et c'est pour ça que c'est en le lisant... que j'ai réalisé que c'était le même bar, le bar du 22, avec c'est le balcon de fer forgé et le linge qui séchait, qui m'a rappelé quelque chose, quoi. Mais j'étais une pitsounette, hein. Et puis, après, c'était plus tard, lorsque j'étais ado et que la démolition a commencé, vers les années 69-70, enfin, elle a commencé avant, et qu'on déboulait du village Charonne par Père Lachaise, on prenait le haut, comme ça, et on descendait ici, et on venait voir les rues qui avaient commencé à être démolies, dont la rue Villain. Et j'ai un vague souvenir d'un escalier sur lequel on m'a fait monter, mais là j'étais encore plus petite. Et c'est le petit bout d'escalier qui n'est plus nulle part. Je devais avoir 5-6 ans. C'est une des premières fois que j'ai vu la ville et le quartier et que je suis tombée amoureuse de Ménilmontant probablement. J'ai pris ce petit escalier, mon père m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Regarde, c'est beau la ville !» Et on était en haut de Ménilmus, quoi. Et ça, c'est des choses... Après, on cherche. Mais bon, la vie de chance, c'est pas mal, quoi.
Au 6, plomberie sanitaire et coiffure. Au 9, un café-restaurant, bar, Marcel et un magasin fermé. Au 11, un magasin fermé et Villain, Laverie, au coin de la rue Julien Lacroix. Pour expropriation, fermeture définitive, le 24 décembre.
Au 10, parage de peau à façon et une papeterie-mercerie fermée. Au 12, pantalons en tout genre. Au 14, une maison fermée. Au 15, une maison démolie. Au 17, Barcave, sur la tente. Chez Adadi Farid, sur la porte. Novo Odvoren, Djougolovansky, café-restaurant, code Mylène.
La boucherie verte est fermée, ainsi qu'un autre magasin. Au numéro 18, hôtel de Constantine, café-bar. Au 22, un hôtel-café. Au 19 et au 21, maison condamnée, au 26, au 24, coiffure d'âme. Pas le magasin, seulement la trace de l'enseigne peinte sur le mur. Dans la cour du 24, des poutrelles de métal. Des ouvriers en face réparent un toit d'un immeuble rue des Couronnes. Au loin, des grues.
25-27, des magasins fermés. À partir du 27, des palissades. Au 28, une maison encore habitée. Au 30, un magasin de mode avec l'inscription « Modes en anglaise ». Au 32, vins et liqueurs fermés. Le 34 et le 36 sont des taudis.
Du 36, une dame sort. Elle vit là depuis 36 ans. Elle n'était venue que pour 3 mois. Elle se souvient très bien de la coiffeuse du 24. Elle n'est pas restée très longtemps.
Le 41... Le 43, le 45, hôtel du Mont-Blanc.
Le 47 sont des immeubles bouchés. Ensuite, des palissades.
Je pourrais donner une petite continuation à la rue Ville.
Ah, tiens donc, on s'y attendait pas, celle-là.
Et c'est pas que je ménage mes effets. Hein. Merci. Merci. Gentil. Ouais. Alors oui, après coup, j'ai appris qu'il y avait un comité de défense qui avait voulu sauver la rue Villa au moment où elle devait être sacrifiée, ce qui a été le cas, pour la construction du jardin de Belleville. C'était un comité où il y avait Girbal, Maurice Chevalier, et je crois aussi peut-être Christiane de Rochefort qui habitait à la Villa Autose. Hein. Ça fait comme tous les comités. Hein. Ils n'ont pas été écoutés, ils ont fait des manifestations, des tracts, et puis la rue Villa a été détruite. Alors maintenant, est-ce que avoir détruit la rue Villa, c'est une faute? Je pense. Je pense parce que je pense qu'aujourd'hui, elle aurait justement le charme de ces rues de Montmartre, et qu'elle aurait pu être incorporée dans le jardin, et qu'elle serait aujourd'hui une rue très visitée par les touristes.
Mais en même temps, est-ce que tu es contre le fait de changer un quartier pour le rendre plus moderne, moins insalubre?
Ah non, pas du tout.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, non, moi, je ne suis pas un passéiste. Hein. Il faut respecter des choses du passé, mais on doit créer des choses de nos jours, autrement il n'y aurait rien. Hein. On resterait une ville-musée, on a déjà tendance à l'être. Non, par exemple, il y a des réussites hein, à Paris. Pour moi, Beaubourg est une réussite. Oh, when I'm taking sales from the tasty lips of the honey valley sales, confession goodness knows, talking about honey sucker rose. Yes, yes.
Ce qui me gêne toujours, moi, quand on regarde l'Est ou l'Ouest parisien, pour raisonner à grands traits, c'est que c'est toujours à l'est, dans les quartiers populaires ou dans les banlieues comme la Seine-Saint-Denis, qu'on se pose quand même pas trop les questions de la mémoire. Ça renvoie quand même aussi à la vision qu'avaient et continuaient à avoir les architectes et les urbanistes sur ce type de quartier. Quoi. La ville historique normale, c'est la ville haussmannienne. Donc celle-là, on la classe, c'est le Marais, c'est le 7e arrondissement. Tout est la ville classique et haussmannienne, après, on la touche pas. Les bâtiments construits de briques et de broc par des petits entrepreneurs locaux, Villain c'était un maire, propriétaire, Pia c'était un notaire, Ramponneau un propriétaire de cabaret, c'est du plâtre et ça vaut pas grand chose et on peut le raser quoi. Bon, ensuite il y a des gens qui pensent que c'est une volonté planifier d'éradiquer l'habitat populaire de Paris. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi des arrière-pensées immobilières. Il y a eu, dans ces années-là, des arrière-pensées immobilières, sans doute. Mais je pense pas que ça soit le déclencheur. C'est pas aussi caricatural que ça. C'est que c'est, dans un cas, les experts de la ville y attachent de la valeur, et dans un autre cas, beaucoup moins de valeur.
Ça fait 5 ans que je suis là, donc je ne suis pas quelqu'un qui peut se considérer du quartier. Cela dit, au bout de 5 ans, on s'y attache. Et ce que je vois, c'est que même si, certes, la rue a disparu, à la place, on a un parc qui est un parc très vivant, qui est une bénédiction pour tous les immeubles du coin, parce qu'il y a quand même beaucoup de HLM, beaucoup de familles avec des enfants. Et c'est vraiment un écrin de verdure, surtout quand il fait chaud comme ça, là, en ce moment. Les gens, ils viennent, ils se précipitent dans le parc. Il y a d'autres rues autour qui ont aussi beaucoup de vie, un peu la même vie qu'a pu connaître la rue Villain à une époque. Ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu aussi un moment, un changement. Normal qu'il y ait des changements et la vie continue. Autre chose s'inscrit et puis c'est aussi intéressant.
Le parc, il n'est pas forcément mal vécu. Hein. Ça serait effectivement, comme je disais, une dalle et des tours comme à la place des fêtes, ça serait sans doute dur. Mais le fait qu'on ait fait un espace vert, qu'on ait fait ce parc avec de l'eau qui descend, le toboggan, moi, toute la scénographie du parc est pas inintéressante. Et c'est vrai que, pour les familles, pour les jeunes, ça représente quand même un espace vert assez sympa. Et voilà, on sait que la rue Villain est à cet endroit, mais ça fait partie de la mémoire. La réalité, maintenant, elle est nouvelle, c'est le parc, on est content de l'avoir. La mémoire, elle est ailleurs.
Dimanche 5 novembre 1972, vers 14h. Le numéro 1 est toujours là. Le 2. Le 3, couleur et confection au bon accueil. Le 4, boutonniériste, fermé. Le 5, laiterie devenue plomberie. Le 6, coiffure. Le 7, détruit. Le 8...
Le 8, le 9...
Le 9.
Le 10, parage de peau. Le 11, détruit. Le 12, célibataire. Le 13, détruit. Le 14, un immeuble détruit. Une boutique encore debout. Le 15, entièrement détruit.
Le 15, le 16, entièrement détruit.
Le 17, bar-cave.
Le 16, le 17, bar-cave.
Le 18,
le 18 hôtel de Constantine.
19, 20, 21, détruit. 22, 20, hôtel café. 23,
21, détruit.
24, toujours intact.
25, un magasin fermé. 26, des fenêtres murées.
27, murées. 28, 30, 36, toujours debout.
30, 36, toujours debout. Un chat tigré et un chat noir dans la cour du 24. Après le 27, côté impair, plus rien. Après le 36, côté pair, plus rien.
Après le 36, côté pair, plus rien. Sur l'immeuble du numéro 30, des affiches de Johnny Hallyday.
Dans le terrain vague, il y a un chantier de démolition.
Des pigeons, des chats, des carcasses de voitures.
J'ai rencontré un enfant de 10 ans. Il est né au 16. Il part dans son pays, Israël, dans 8 semaines.
Ben ça, c'est mon voisin de palier, alors il est tout étonné que je fasse...
Tu vas passer aux infos ?
Sûrement, sûrement, mon chéri.
Non, c'est la radio. Ouais,
penses-tu ? C'est en promenant Baboune que j'ai entendu lire un texte, voilà.
D'un auteur qui s'appelle Georges Perec.
Tu connais Georges Perec ?
Oui, on a travaillé sur un livre.
Sur quoi ?
C'était en CE1.
C'était en CE1 ?
Je me rappelle de
Pérec. J'ai discuté avec des gens, par exemple. J'ai dit, j'habite Belleville. La femme m'a fait, mais vous habitez le vieux Paris ? C'est une connerie. C'est inconcevable, cette affaire. Le vieux Paris, elle était dans le premier arrondissement. Et elle trouvait que Belleville, il a été annexé en 1860. Hein. Il était avant, très avant Pointe-Trouville, et puis Belleville, une banlieue. Hein. Donc on ne peut pas dire que Belleville soit un vieux Paris. Le vieux Paris, il est au centre, il est dans les îles, et il n'est pas à Belleville. Mais malgré tout, on lui prêtait ça. On lui prêtait
aussi. Parce que c'était populaire.
Ouais, alors voilà, le problème c'est ça. Alors là, indéniablement, Belleville a été populaire. C'est-à-dire qu'il était peuplé de gens qui n'avaient pas les moyens. C'est sûr que Belleville, alors qu'il jouit aujourd'hui d'un certain prestige, est un mythe. Hein. Un mythe pour tout d'ailleurs. Si tu trouves un vrai Bellevillois, tu me feras signe. Hein. Et en plus de ça, Belleville a joui de la réputation d'être populaire, mais attention, à l'époque populaire, c'était péjoratif. Hein. C'était des gens qui n'avaient pas d'argent, qui étaient dangereux.
Hein.
Classe laborieuse, classe dangereuse, hein, comme dit M. Chevalier. Et donc, c'était comme ça l'affaire. C'était donc pas une bonne réputation. Elle a eu une fausse réputation aussi en ce qui concerne les Apaches. Hein, j'ai vu ça, mais il y a très longtemps. On disait Belleville, c'est le fief des Apaches. C'est une connerie. Hein. C'est faux, archi faux. Le fief des Apaches, c'était le sentier, c'était le centre de Paris. Et les Apaches ne correspondent pas du tout à l'image qu'on en fait dans Casque d'or, du gars à la casquette avec le foulard rouge et tout ça. Hein. Ça, c'est un Auvergnat. Hein. C'est un chourineur. C'est pas un Apache. Un Apache, c'était un homme qui était un peu efféminé, qui était tatoué, qui était très élégant, bottines, feutre, qui avait des femmes qui étaient des prostituées mais qui n'étaient pas maquées, qui étaient très libres. C'était des hommes qui étaient épris de musicole, de vitesse, de pognon. C'était des gens qui négligeaient la classe ouvrière, qui la méprisaient et qui n'avaient qu'une hâte, c'était de rentrer dans la bourgeoisie. Hein. C'était ça les Apaches, les vrais. Et non pas ces images de musicole. Hein.
Que personne ne bouge! Restez tous à votre place!
Hé, brigadier, il y a Maccabé, là.
Ouais, je crois qu'il a son compte. Transportez-le dans la salle, j'y vais.
Bien, brigadier.
Patron, nous voudrions payer et nous en être.
Écoutez, monsieur Lame, je suis désolé. Ce qui est arrivé, c'est absolument indépendant de ma volonté.
Mais c'est possible, mais nous voudrions...
Mesdames, messieurs, je vous demande pardon, mais vous n'avez rien remarqué?
Mais qu'est-ce que nous aurions dû remarquer?
Vous n'avez pas assisté à une risque, à une altercation?
Non, non, pourquoi?
Nous venons de trouver un cadavre.
Un cadavre?
Et voici.
Rappelle-toi.
Mais c'est ton danseur, ma chère. Quoi?
Comme il y a eu production littéraire, il y a eu l'exposition de la Villette, des expositions au bar Floréal, qui ont été des choses très populaires. Bon, Pérec, c'est plus intellectuel, mais le travail de la Villette et Belleville, le bouquin qui en est issu, a été vu par beaucoup de gens du quartier, qui sont venus voir et qui ont dit « Tiens, ah oui, c'est ma rue. » Et du coup, ce qui ailleurs aurait été oublié au bout de 30 ou 40 ans, on ressort des tiroirs, les photos de famille, on vient les montrer aux photographes du Floréal, à d'autres photos, à des gens qui ont travaillé. Et donc, du coup, la mémoire est plus... se perdure plus facilement. Et puis, il y a les gens qui l'ont jamais connu comme moi et qui se la réapproprient à travers ce travail sur la mémoire ou sur la ville. Et du coup, je peux en parler comme si je l'avais connu et encore mieux que si je l'avais connu. Donc, ça agrège encore d'autres personnes au processus et il y a plein de gens qui en parlent.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de rues qui sont vivantes. Il faut vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour avoir l'impression qu'on habite une rue, quoi. Et il faut faire plein de choses. Moi, une rue, la rue Villain, sans verser encore dans la nostalgie, il y a, je sais pas, 50 ans, 60 ans, on n'aurait peut-être pas eu besoin de mobiliser beaucoup d'énergie pour qu'il y ait quelque chose qui spontanément se passe, ou qu'il y ait un rire, ou qui claque comme ça, et ainsi de suite. Je sais pas. Oui, c'est vrai, on sait pas. On sait pas. C'est vrai.
On ne peut que rêver sur la rue Villain.
Oui, on peut que rêver, oui. On peut que rêver. On peut, ouais, enfin bon, moi, c'est vrai que je n'y ai pas vécu. Donc, je peux pas dire ce qu'elle a pu être vraiment. J'ai simplement les images ou les reconstitutions qui ont été faites. J'ai les images d'autres rues, dans le quartier des Amandiers, la rue des Partants, par exemple. Enfin, mais j'imagine qu'il y a, il y a quelque chose aussi, une proximité, je veux dire, qui n'existe plus.
5. Jeudi, 21 novembre 1974, vers 13h.
Les HLM en bas de la rue des Couronnes sont terminés.
Le bas de la rue Villain semble encore un peu vivant. La dormure amoncelée.
Le 1 est encore intact.
Le 4, un boutonniériste.
Au croisement de la rue Villain et de la rue.
Le restaurant-bar Marcel est fermé.
Il y a un magasin de coiffure.
Au croisement de la rue Villain et de la rue Julien Lacroix, il n'y a plus de debout que Céliptère, pantalon.
Trois autres coins sont occupés, deux par des terrains vagues.
Ainsi que le 20 et 24.
Du côté impair, le 21 est en démolition.
On voit des bulldozers, des escalatrices.
Un moineau mort au milieu de la chaussée.
Au numéro 30, une affichette. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. 25, 26, 27 août 1974. Expropriation du 28 et 30. Création d'un espace libre public à Paris 20e.
Rien au-delà du 30. Des palissades, des terrains vagues où s'affairent des casseurs de voitures. Des affiches électorales sur les palissades. 6. 27 septembre 1975, vers 2h du matin.
La quasi-totalité du côté impair est couverte de palissades en ciment. Sur l'une d'elles, un graffiti. Travail égale torture.
Moi, il y a une chose qui me manque quand je dis ça, c'est que Georges Perec soit mort, bien sûr, et puis qu'il n'ait pas pu faire un texte ici et maintenant, où il y a juste 2-3 ans. C'est comme ça, quoi. Ouais. Ça donne envie quand on lit ça. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il aurait dit, quoi.
Mais de lire aussi, hein, tout ce qui est écrit là. Bah, oui. Hein, donc, à la mémoire du commandant au reste du four, chevalier de la Légion d'honneur, ses camarades de combat, ses amis, ses admirateurs, héros de la résistance. Il est mort pour la France à Dachau le 10 avril 1945. À côté, je vois Maison de l'air, mairie de Paris. Juste en dessous, Maison de l'air, haut du parc de Belleville. Exposition ouverte tous les après-midi, sauf le lundi. Les toilettes publiques se trouvent en haut des marches. Et un panneau interdit aux chiens, même tenu en laisse.
Une scène, imagine tu es cinéaste,
oui.
Romancier, tu dois inventer une scène dans la rue Villain. Il se passerait quoi?
Rien. C'est une rue vide, je te dis.
Je sais pas, il y avait quelque chose de très... Ces gens qui étaient vivants, très communicatifs, on pouvait parler avec tout le monde.
Il n'y a pas eu de grands meurtres, il n'y a pas eu d'inauguration. Je ne sais même pas s'il y avait un bal le 14 juillet. Ce n'était pas effectivement des endroits centraux de Belleville, il y avait des endroits plus centraux.
And the stars that shine above will guide our way to love. You rule these flames with me. I'm the Shiggy Man from Arabie.
Pour moi, elle n'a pas plus d'existence détruite qu'elle en avait quand elle existait. Mais ça aussi, c'est aussi une leçon du passé. Je pense que, elle est morte. Mais a-t-elle vécu, je ne sais rien.
Mais ça, on ne l'avait pas dans les autres rues. Les autres rues à côté, non, ça ne faisait pas ça.
Mais pourquoi alors, rue Villain?
Allez savoir. Il y a quelque chose, hein, rue Villain. Je ne sais pas.
C'était Une revenante, première partie de la série La rue est un roman, avec Alain Cosset, Édouard Février, Irène Mimoso, Mohamed Ouadan, Dominique Ray, Madame Vacheblatt. La troupe Les Ateliers du Chaudron était dirigée par Tanit Noble. On lut le texte, Sylvie Angelelli, Juliette Kempf, Joël Flink, Luc Fessard, Philippe Franciozo, Christiane Michel, Anne-Laure Pelé, Martine Perrault et Éric Turcot. Qu'ils soient ici remerciés pour le temps qu'ils nous ont généreusement consacré. Les extraits de lecture tirés de « En remontant la rue Vilain » étaient lus par Marcel Cuvelier. Un grand merci également aux associations La Belle Villeuse et Itinérance qui nous ont aidés dans nos recherches d'habitants. Le texte de Georges Perec, La rue Vilain, est publié dans le recueil intitulé L'infraordinaire aux éditions du Seuil. En remontant la rue Vilain, de Robert Bobert, est un film de 1992 produit par La 7 Arte Vidéo. Prise de son Isabelle Limousin, mixage Éric Boisset, coordination Marianne Chassor, réalisation Anne Fleury, une émission d'Isabelle Rossignol. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 septembre 2006.